Cambridge International Examinations. Pre-U French Principal Course 9779, Paper 2, May-June 2016. Part 2. Listening. Texte à écouter 1. La technologie risque-t-elle de devenir un cauchemar dans les hôpitaux?
À l'hôpital comme ailleurs, les smartphones, ordinateurs, etc. font désormais partie du paysage. Mais ce qui inquiète les spécialistes, c'est leur usage compulsif dans les salles d'opération ou les unités de soins intensifs. Dans les années 70, les professionnels de santé étaient peu distraits de leurs tâches et se focalisaient sur leurs patients, collectant directement les informations les concernant. Aujourd'hui, des ordinateurs s'interposent en permanence entre eux. L'informatisation des dossiers médicaux peut apparaître comme un progrès, mais ce n'est pas parce qu'un professionnel de santé regarde un écran qu'il est en train de travailler. Des chirurgiens téléphonent pendant leurs interventions. Des anesthésistes utilisent l'ordinateur du bloc opératoire pour faire du shopping sur Internet. Des infirmières et des médecins envoient des textos en surveillant une circulation de sang. Ainsi, une étude révèle que 72% des chirurgiens utilisent leur téléphone portable pendant des opérations et 20% vont sur Internet. Mais il ne faut pas exagérer la gravité de la situation. Pour le professeur Richman, à Toulouse, être joignable en permanence permet aux praticiens de régler plus vite des situations d'urgence. Cependant, il ajoute qu'il faut un code de conduite. Pour un autre chirurgien, le professeur Cabot, ce n'est pas choquant. Il défend ses collègues anesthésistes en rappelant que leur travail, en dehors des phases cruciales au début et à la fin des opérations, comporte de nombreux temps morts. Il constate que ça a toujours été le cas. Auparavant, il passait ces moments-là à lire. Maintenant, il surfe.
Texte à écouter 2. L'indépendance énergétique de la France.
L'indépendance énergétique de la France est liée à l'histoire du nucléaire. Pendant les années 60, les hommes politiques avaient une vision d'indépendance stratégique. Tout d'abord, ils ont mis au point la bombe atomique. Puis, ils ont lancé un programme de construction de centrales nucléaires.
C'est pour ça que le nucléaire est primordial pour la position de la France comme grande puissance indépendante. Il assure sa défense par la dissuasion nucléaire. Et en plus, il lui permet d'être indépendante des importations de pétrole pour sa production d'électricité.
Oui, je suis d'accord que la stratégie nucléaire présente des avantages. Les ressources d'uranium sont vastes et les centrales nucléaires ne dégagent pas de gaz à effet de serre. Seul problème, la dernière mine d'uranium en France a fermé ses portes en 2001. Et maintenant, la France doit importer tout l'uranium nécessaire au fonctionnement des centrales.
Mais toujours est-il que la France n'est pas vraiment indépendante sur le plan énergétique. Au contraire, elle est doublement dépendante, et du pétrole, et du nucléaire. Pour être tout à fait indépendante, il faudrait exploiter davantage des sources d'énergie renouvelables.
En plus, au niveau économique, la stratégie de l'indépendance énergétique demeure essentielle. L'augmentation de la demande des pays émergents, la Chine et le Brésil, par exemple, va faire augmenter les prix Et c'est nous qui en subirons les conséquences si nous continuons à acheter notre énergie sur le marché mondial.
Et le petit consommateur dans tout cela? Il devra développer de nouvelles habitudes de consommation. Par exemple, dans le domaine des transports, du chauffage, de sa vie domestique et professionnelle, etc.
Texte à écouter 3. La fac sans le bac, c'est possible.
Le DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires, permet d'accéder à l'université. C'est un diplôme national équivalent au bac. Il s'adresse à tous ceux qui n'ont pas le bac et qui souhaitent s'engager dans des études universitaires. Seule condition, il faut avoir au moins 20 ans et pouvoir prouver qu'on a eu une activité professionnelle pendant un minimum de 2 ans, ou bien il faut avoir plus de 23 ans et avoir interrompu ses études depuis 2 ans. Évidemment, il faut travailler. Les résultats sont bons, même si les étudiants concernés s'avèrent très volatiles en première année. Au bout d'un mois, seuls les 2/3 viennent encore en cours. 60% passent l'examen, dont la moitié réussit. Pour mieux faire connaître ce diplôme, un blog a été créé, ainsi que des journées portes ouvertes. Julia Abdou, 26 ans, passe en deuxième année de licence en droit à Paris. Elle n'a jamais eu le bac. Et pour cause, elle a arrêté ses études à la fin du collège. J'étais plutôt une bonne élève, mais l'adolescence a tout gâché, dit-elle pudiquement. La jeune fille, qui n'avait jamais mis les pieds au lycée, se retrouve à l'université, inscrite en première année de diplôme en droit. Ce diplôme en 2 ans permet ensuite de rattraper un programme normal. Thomas Lebert a, lui aussi, connu une scolarité chaotique. Il a raté son bac 2 fois. De petit boulot en petit boulot, il a fini par prendre confiance en lui-même et par mûrir. À 27 ans, il a décidé de reprendre ses études. Aujourd'hui, il est en 4e année de médecine à l'Université de Marseille. This is the end of the recorded material.